Vous écoutez
RMC. RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le vent des globes, l'Everest des mers. La course de voile la plus difficile au monde.
C'est l'extrême, c'est la résilience, c'est la haute technologie également.
La cuisine, elle est vraiment, comme on l'espérait, hyper fonctionnelle et très complète. Et
du coup, assis ici, je peux tout faire. Avoir la carto, la météo, la position des concurrents.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On a déjà un frigo à compression 12 volts. Il a une capacité de 78 litres pour la partie réfrigération et une capacité de 6 litres pour la partie congélation.
Avoir accès au téléphone du bord, voir dehors. L'état de la mer, le ciel, les foils, les réglages des voiles.
Chaque lit est équipé d'un matelas en mousse Bultex de 5 cm d'épaisseur et d'un sommier à latte tout à fait classique.
Tout ça dans un siège où je peux confortablement dormir, régler une voile si j'ai besoin sur ce winch juste à côté et régler les foils aussi grâce à cette manivelle-là. Donc voilà, je peux tout faire d'un seul endroit.
Bien joué, Patino.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
Franck Camas, notre consultant, est avec nous en direct de la navette presse. Salut Franck.
Salut tout le monde.
Merci d'être Franck. Avec nous. Salut, Franck. Tu étais avec nous hier déjà dans les GG. Maintenant, tu comprends et tu connais parfaitement l'esprit des grandes gueules du sport. Nous sommes ce matin avec Fred Weiss qui était déjà avec nous hier, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski et Simon Dutin. Tu vas participer avec nous à ce débat. C'est donc la 10e édition du Vendée Globe qui s'élance aujourd'hui des Sables d'Olonne. Le départ est prévu donc à 13h02. Et c'est toujours un événement, vous le savez, extrêmement fort qui se déroule actuellement un à un. Les navigateurs ce matin ont quitté le ponton pour remonter le chenal, un instant toujours magique, même si cette 10e édition ne ressemble en rien à la première. En 1989, les bateaux ont été remplacés par des Formule 1, des mers, des marins, qui ont été remplacés aussi par des ingénieurs. La technologie est désormais ultra présente à bord. Alors la musique qui fout les jetons, et cette question, mais GG, le Vendée Globe a-t-il un peu perdu de sa superbe? Oui ou non? Sarah est consternée par ma question. Sarah, oui, Pitkowski.
Absolument pas. Je m'indigne déjà sur cette question.
Ok, Simon Dutin.
Oui, un peu, forcément.
Oui, un peu. Fred Weiss.
Non.
Non. Sarah Pitkowski.
Non, Marion.
Marion Bartoli. je vous confonds. Ah, mais moi, les trucs avec des balles jaunes, je vous confonds. Marion Bartoli.
Un tout petit peu, parce que j'ai tellement répété pour ce qu'ils font que je ne peux pas dire énormément. Mais okay. Tout petit peu.
Un petit peu. Franck Camas.
Moi, j'ai comme Sarah.
Ok, il est.
Il est consterné.
Il est consterné.
Je vois pas comment on peut pas l'être.
Mais ça tombe bien de réveiller un petit peu nos marins. Avant de débattre, on va retrouver également sur la navette presse notre envoyée spéciale Maria Azer. Bonjour Maria.
Rebonjour tout le monde.
Mais c'est vrai que le Vendée Globe, on le disait, c'est une aventure folle, hein, extraordinaire. Personne ne dira le contraire ici. Mais beaucoup plus confortable qu'avant quand même.
Alors oui, c'est sûr qu'on n'a plus les bateaux tout ouverts comme on avait à l'époque, tu le disais, en 1989 lors du premier Vendée Globe. Aujourd'hui déjà, on a des pilotes automatiques hein, comme dans les avions. Les bateaux sont devenus très très gros, de véritables Formule 1, ils font 18 mètres. Voilà, alors forcément plus confortable aussi, les skippers passent aujourd'hui la plupart du temps dans le cockpit, donc derrière leurs écrans forcément, parce que tout est piloté à distance. Aujourd'hui, on peut tout faire quasiment sur les ordinateurs, sauf les réparations bien sûr. Et Yannick Bestaven, donc le dernier vainqueur du Vendée Globe, lui, par exemple, il est équipé de Starlink, la communication par satellite inventée par Elon Musk, et ça lui permet notamment de rester en communication avec ses proches pendant 2 mois et demi aux 4 coins de l'océan.
On a la 5G à bord partout sur la planète, grâce à Monsieur Musk.
Et
en plus, les coûts de communication, je crois qu'il y a 4 ans, j'avais 15 000 euros de communication, et maintenant ça coûte 300 euros par mois.
Donc des économies forcément pour Yannick Bestaven. La nourriture aussi s'est améliorée en mer. Certains skippers ont fait appel à des chefs étoilés pour qu'ils préparent des plats apertisés, on appelle ça, pour le départ. Alors c'est différent de la nourriture lyophilisée classique qu'on connaissait, qui était parfois immangeable, même parfois qui provoquait quelques problèmes de digestion chez les skippers. Alors inconvénient de la nourriture apertisée, c'est que ça pèse un peu plus lourd. Mais tant pis pour Johan Richaume, l'un des favoris de ce Vendée Globe, pour qui ce sera le premier de Vendée Globe. Et lui, il a plutôt misé sur le confort de la bonne nourriture.
Je sais pas ce qu'ils mangeaient avant, ouais. J'ai pas, mais ça devait pas être terrible, effectivement. Tout s'est bien amélioré. On a pris tous conscience de la qualité de la nourriture que l'on doit avoir. Et puis, les problèmes de digestion qu'on pouvait, voilà, avoir aussi. Moi, c'était le cas. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai plus ce sujet-là à gérer.
Voilà. Donc, les petites améliorations de confort. pour compenser le corps, parce qu'on a avancé technologiquement, on a avancé sur les bateaux. Et donc, je disais, les bateaux sont des Formule 1, grâce aux foils notamment. Vous savez, c'est ces sortes d'ailes qu'il y a sur le côté des bateaux. Alors, l'IMOCA, il vole littéralement sur l'eau, il atteint des vitesses jusqu'à 30 nœuds, donc 55 km/h sur la mer. Donc, forcément, face aux vagues, ça donne des chocs énormes. Il y a parfois des cas de commotion cérébrale à force des chocs. Voilà, donc les skippers le disent, on vit à quatre pattes, comme des animaux dans nos bateaux, avec les chocs et l'intensité. Ils sont 25 bateaux à avoir des foils sur ce Vendée Globe. Alors pour les protéger, ces skippers, les cockpits maintenant sont tous fermés, on n'est plus ouvert comme à l'époque. La cellule de vie où ils dorment notamment a été réduite pour qu'on évite les grosses chutes, par exemple si on dort et qu'il y a un énorme choc, voilà, la cellule a été réduite pour que la chute ne soit pas trop grosse et éviter les fractures. Et Sébastien Simon, lui, explique ce qu'il a mis en place pour mieux absorber la vitesse et les chocs justement.
On a mis en place beaucoup de choses dans le bateau, notamment des sièges moulés sur moi comme en Formule 1, montés sur amortisseurs. On a mis voilà, maintenant je porte un casque, ce qu'on faisait pas trop en tant que marin à l'époque, mais les bateaux vont tellement vite, faut s'imaginer que ça devient un automatisme pour moi. Et puis voilà, plein d'autres petites choses qui font que je peux me permettre maintenant de pousser le bateau et en restant tout en sécurité.
Voilà, donc le casque est désormais quasiment essentiel. La technologie, par contre, ne règle pas tout. Une casse ou un problème sur une voile oblige forcément le skipper à sortir. Mais ça a amené une dimension un petit peu plus luxueuse à cette course à la voile. Une perle de foil, pour information, ça coûte environ 600 000 euros. Évidemment, tous ces ordinateurs, ça coûte cher aussi. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Parmi les 40 skippers qui partiront pour ce Vendée Globe, Fabrice Amedeo, par exemple, skipper pour Nexan WeWise, fait partie des 15 bateaux à dérive, avec notamment Jean-Luc Hamm, qu'on connaît bien, et Éric Bélion. Donc forcément, il ne fait pas partie des favoris, parce que sans foil, on va bien sûr moins vite. Et lui n'est pas forcément d'accord avec toutes ces innovations.
Alors moi, je refuse d'être le vieux con qui crache dans la soupe et qui critique la marche en avant des bateaux qui sont toujours plus chers, toujours plus rapides, toujours plus techno. C'est vrai que je me reconnais pas forcément dans les bateaux de dernière génération, qui sont maintenant vraiment réservés à une élite. Je me dis qu'on est peut-être allé un peu trop loin.
Les avancées techniques et technologiques, elles ont quand même des avantages. Il y a des bateaux, comme celui de Fabrice Amedeo, qui ont des doubles projets. Lui, par exemple, part avec du matériel scientifique pour faire progresser les connaissances sur l'océan, parce que les scientifiques ne peuvent pas accéder à toutes les zones que vont parcourir les skippers de ce Vendée Globe. Donc voilà, la technologie a aussi parfois ses avantages.
Merci beaucoup, Maria Azé, en direct au large des Sables d'Olonne, désormais sur la navette presse, avec Franck Camas, notre consultant, qui est avec nous pour ce débat. Est-ce que tout ça, vous l'avez entendu, toute cette technologie, le record est désormais à 74 jours, peut-être que quelqu'un descendra sous les 70, peut-être cette édition, 60 jours, pourquoi pas. Est-ce que tout ça fait que le Vendée Globe a perdu un petit peu de sa superbe? Vous n'êtes pas d'accord, les GG? Et Franck Camas est très énervé après notre question, et Franck Camas va nous rentrer dedans, surtout à vous les GG, pas trop à moi. Franck Camas, on t'écoute.
Oui, en fait, le reportage était très juste. On dit que les bateaux sont plus confortables, mais en fait, on finit le reportage par dire qu'il y a tellement de chocs qu'on est obligé de mettre des casques, et que la vitesse, au contraire, rend pas confortables les bateaux. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, naviguer sur des bateaux à 20 nœuds contre une mer qui est toujours aussi difficile qu'il y a 35 ans, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus contraignant pour les skippers qui doivent vivre dans une boîte avec des chocs en permanence. Donc tous les bateaux à foil, c'est réputé pour être des bateaux compliqués. Il y a des skippers qui sont passés de Clarisse Kremer, c'en est une par exemple, qui est passée d'un bateau à dérive sur le Vendée Globe précédent, et maintenant avec un bateau à foil de dernière génération. Et je peux vous dire que la transition a été plutôt difficile pour elle. Donc non, les bateaux aujourd'hui ne sont pas du tout plus confortables. Ils sont un peu plus protégés de l'eau parce qu'on peut faire beaucoup de choses à l'intérieur du cockpit. Ça, c'est une réalité. Mais pourquoi on est plus...
Ah, ça coupe, évidemment, forcément.
Invivable de monter sur le pont, et voire extrêmement dangereux sans arrêter le bateau, tellement les bateaux vont vite et que les embruns, évidemment, balayent tout sur le pont.
Sarah Pitkovski.
Bah, je suis forcément d'accord. Je trouve que réduire l'évolution de la technologie, de la performance, de la mécanique, au fait qu'il y ait moins de ferveur sur un Vendée Globe, en tout cas sur ce type de course.
Moi, je ne parle pas de ferveur. Hein. La question, c'est de savoir si justement le mythe, la légende, il part 3, 4, 5 mois et maintenant on sait à peu près quand ils vont arriver tous.
Oui, mais il y a des choses qui sont immuables. C'est-à-dire que les récits sont toujours extraordinaires. Tu as toujours des sauvetages parce qu'il y aura toujours des sauvetage parce que il défie les lois de la nature quoi qu'il arrive. T'auras toujours des mecs barbus qui vont arriver au bout de 3 mois avec un visage qui est ravagé parce que ils ont vécu dans un bruit le nombre de décibels qu'ils sont en train de vivre pendant des mois, le défi du sommeil, le défi de la nourriture, quoi qu'il arrive, ces défis-là existent. Alors aujourd'hui, toi tu mets le confort, mais en fait c'est sécuritaire. Mais il faudra toujours que un skipper ou une skipette monte en haut de son mât s'il y a un problème avec une voile. S'il y a une voile qui est déchirée, il faudra toujours qu'il monte pour essayer de la réparer. Il faut aussi comprendre que ces hommes et ces femmes, au-delà de ça, il y a un nombre de compétences qu'ils doivent intégrer au-delà de la stratégie, de lire les cartes météo, mais ils doivent tout réparer. S'il leur arrive un pépin physique, mais s'il arrive un pépin sur le bateau. Et c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup investi sur l'amélioration des bateaux. Et je trouve que sur ce Vendée Globe, on nous retranscrit des histoires où on a beaucoup plus investi sur l'homme, le sportif et sa performance. Et il ne faut pas le considérer comme étant un luxe. C'est comme en Formule 1. On investit beaucoup dans les voitures.
C'est une condition normale parce que tu veux continuer à avancer. À
un moment, exactement. Tu déplaces ton progrès.
Et tu déplaces le progrès. En fait, des hommes comme Simon, c'est des mecs qui jetteraient des clous dans l'habitacle pour que les mecs aient plus de danger, pour que c'est un peu plus de pêche.
Simon n'a pas encore.
Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on se rend compte quand même que le risque existe. Oui, on essaie de le réduire au maximum. Oui, on met des casques. Oui, on met des sièges thermomoulés, etc., etc. Évidemment, parce qu'on n'a pas envie de les envoyer à l'abattoir. L'époque faisant, les progrès des bateaux faisant, on est obligé de faire ce genre de choses. Mais le risque existe toujours. Et justement, c'est ce qui plaît dans le Vendée Globe, c'est qu'il y a toujours un danger. On sait quand ils partent, on ne sait pas vraiment quand ils arrivent, même si c'est plus regroupé, même si c'est moins compliqué de savoir quand ils vont arriver. On sait à peu près quand ils vont arriver. On ne sait pas ce qui va se passer pendant la course. On ne sait pas qui va devoir être secouru, qui va avoir un problème. Parce que finalement, ce qui fait le sel de cette compétition, c'est un peu ça aussi. Les problèmes, le drama, on en a parlé hier, c'est un peu le drama aussi. Donc, essayer de réduire au maximum le risque pour l'humain, pour qu'il soit dans de meilleures circonstances, pour faire de meilleures performances, je ne vois pas en quoi c'est grave.
Ok, Simon et Marion, c'est à vous, parce que vous pensez le contraire.
Ça, c'est un exercice un petit peu difficile, passer après Franck Camas pour démystifier un petit peu le Vendée Globe.
Il y en a qui vont
au charbon, hein, on n'a pas peur. Je vais quand même prendre un petit risque, je vais y aller mollo quand même par rapport à ce que j'avais prévu. Loin de moi, évidemment, l'envie de remettre en question l'accomplissement sportif. Moi, à titre personnel, la plus grosse terreur que j'ai expérimentée de ma vie, c'était en mer, une nuit au large de Fos-sur-Mer, et ça reste la plus grosse terreur de ma vie. Donc que de l'admiration pour ces champions, ces skippers qui doivent faire face à cette équation intemporelle. Pourquoi y aller, comment rentrer, hein, pourquoi partir, comment revenir, ça c'est on est dans l'ordre du mystique. Si je peut exprimer un avis, c'est que je pense qu'on est passé en quelques décennies du conte mythologique, quoi, du conte légendaire, à la performance de très très haut niveau, qui à ce titre comporte évidemment des risques, mais encore une fois, sans manquer de respect à tous les engagés, rien que le plateau par exemple des skippers, des skippeuses, je veux dire, il y a une élargie. Époque où chacun des participants était connu. Alors le plateau était moins large, mais je veux dire les Perron, les Gauthier, les Parlier, les Desjoyaux, je veux dire c'était des mecs qu'on reconnaissait tous dans la rue. Bon, là tu vas demander aux gens qui est qui, je pense que les gens sont un petit peu embêtés. On est passé de la folie furieuse à l'ingénierie, quoi, de très haut niveau. Je veux dire, la technologie a quand même pris une place.
On est passé de marin à skipper.
Oui, peut-être, voilà,
c'est une façon de le résumer,
mais je veux dire, Bon, fort heureusement, la course est de moins en moins endeuillée, mais moi je me souviens que les premières éditions, c'était quand même, il y a Mike Plant qui était décédé, je crois, le jour du départ. Il y avait ce skipper canadien qui, lors de la deuxième édition, et tout cela entretient une mythologie qui a, grâce au progrès, grâce à la technologie,
a disparu. Okay.
Et on peut, même si on continue d'interdire le routage, les skippers ont quand même accès à Internet sur le bateau. Je parle sous le contrôle de Franck Camas. Ça change quand même un petit peu la vie du marin solitaire au large.
La précédente édition, il y a eu des accidents encore avec qui a failli passer sans. Sans avoir la solidarité de d'autres marins Kevin comme Jean Cam. Donc le risque, il est évidemment présent. Et moi, je pense que le risque est même supérieur à partir du moment où les bateaux vont plus vite. Il y a plus de risques sur un bateau rapide que sur un bateau lent, quoi qu'il arrive. Et c'est un peu dommage d'opposer performance et aventure. Et au contraire, quand on essaye d'avoir une haute performance, on pousse le bateau, on pousse la machine, et c'est là où l'aventure arrive, parce que faire un tour du monde sans contrainte de performance, c'est relativement facile. Alors c'est jamais simple, faut être courageux, mais pour partir, mais c'est beaucoup plus compliqué si on veut le faire dans le plus faible possible.
Marion Bartoli.
Alors moi, si je peux venir soutenir un petit peu mon copain Simon, c'est vrai que encore une fois, je suis en admiration totale devant ces sportifs, devant ce qu'ils font. Et puis j'avais eu l'occasion de rencontrer François Gabart, qui avait gagné cette compétition en janvier 2013. Et 2013, forcément, c'est une année un petit peu marquante pour moi. Donc j'avais eu l'occasion de discuter avec lui.
Oh, Wimbledon, ça va.
Donc du coup, j'avais pu aussi accéder à toutes ces histoires du quotidien de ces marins qui sont absolument exceptionnels. Et j'ai trouvé la comparaison effectivement à des skippers aujourd'hui, la part de Sarah, totalement pertinente. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec cette histoire qui m'avait vraiment marqué aussi, de Bertrand de Brock, qui s'était perforé la langue et qui avait dû envoyer un fax au médecin qui était en charge de secourir les skippers à n'importe quel moment pendant le Vendée Globe, et qui lui avait expliqué par fax de retour, étape par étape, comment arriver à se recoudre la langue lui-même. Je crois que cette photo a fait le tour du monde, vous devez vous en souvenir, où on voit ce skipper arriver à se recoudre la langue lui-même. Voilà, j'ai grandi avec ces histoires vraiment totalement hors normes et qui mettait encore plus sur un piédestal ces êtres humains totalement exceptionnels. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand j'étudie un petit peu toutes les évolutions technologiques, alors vous avez parlé d'Internet, effectivement les skippers aujourd'hui sont connectés à WhatsApp, pour faire très clair, pendant 2 mois et demi. En 89, on mettait 109 jours pour faire cette traversée, pour réaliser le Vendée Globe. Aujourd'hui,
pour le meilleur, le
record. Dans le meilleur, exactement. Armel Leclerc l'a fait en 74 jours en 2016. Tout le monde pense que ce record va être battu. Donc voilà, c'est une course effrénée effectivement à la performance. Là où je rejoins Franck Camas, c'est qu'effectivement cette course effrénée à la performance n'est pas dénuée de risques, bien évidemment. Mais je pense que la technologie embarquée par Michel Desjoyeaux en 2000, lorsqu'il remporte le Vendée Globe, on n'est pas loin d'avoir la même technologie que n'importe quel quidam sur son navire de plaisance. Aujourd'hui, on est dans des coûts technologiques qui représentent environ 600 000 euros sur un bateau qui en vaut 4 millions. Donc bien évidemment que la performance va être nettement augmentée, mais il est vrai que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Il n'en demande pas moins qu'il y a des risques qui sont encore énormes, que l'engouement n'a absolument pas du tout déclin, et qu'il y a, je crois, quasiment 300 000 personnes qui sont attendues aujourd'hui pour le départ. Donc j'ai énormément de respect. Si j'avais tout simplement ce tout petit bémol ajouté, c'est vrai que cette image m'a tellement marqué, parce que forcément fille de médecin, que voilà, c'était un petit peu ces images de mon adolescence que j'ai pu avoir du Vendée Globe.
Et c'est ce qu'a fait la légende, hein, justement, de cette course. Kevin nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat Vendée Globe. Salut Kevin.
Salut JC, salut Grande Gueule.
Bon, vas-y, dis-le tout, t'es dans quel camp là?
Moi, je suis clairement dans le camp où on peut pas parler de confort, en fait. C'est-à-dire que les innovations en termes d'ergonomie qui ont été ajoutées sur les bateaux, ils ont pas pour but de donner du confort, mais juste de réduire un peu l'inconfort des nouveaux bateaux. Et puis, je voulais revenir un peu aussi sur le débat d'hier. Est-ce qu'on est sur le drama ou sur le sportif? Il y a un intérêt sportif énorme et qui est décuplé, ça n'a pas été amené dans le débat hier, par la bataille d'architectes aussi, puisqu'en fait sur les précédentes éditions on avait un voire deux architectes qui concevaient l'ensemble des bateaux neufs, et on a l'arrivée notamment de Sam Manuart, l'architecte nantais, David Raison aussi qui a conçu le bateau de Jean Lecam, avec des innovations et des choix en termes de carène, de foil, de forme de foil, qui font que finalement chaque bateau va avoir un avantage dans certains types de conditions de mer. Sauf que sur un tour du monde, tu sais pas exactement quel type de conditions de mer tu vas avoir et quel type de conditions de vent tu vas avoir. Et finalement, ces choix architecturaux vont donner encore une saveur sportive encore supplémentaire à la course. Et puis la dernière chose que je voulais dire, quand on parle du routage, En effet, les logiciels de routage vont pouvoir fournir la trajectoire idéale que le skipper va pouvoir prendre par rapport aux paramètres du bateau. Mais derrière, il y a tout le choix humain. Parce qu'en fait, un virement de bord, c'est une demi-heure de manœuvre, c'est 400 kilos de matériel et de voile à matosser, c'est-à-dire à changer de côté quand tu changes de bord, quand tu changes d'amure. Et donc, en fait, le marin, chaque skipper va devoir faire ces choix-là. En fonction de sa capacité à résister. Et la dernière, toute dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on a un enjeu sportif énorme, parce qu'en fait, même au-delà de la 30e place sur les bateaux d'ancienne génération, eh bien, on a des skippers qui sont tous des régatiers et qui vont se prendre au jeu de finir 30e et pas 31e et 29e si on peut. Et c'est comme si dans une étape du Tour de France, on avait les sprinteurs en haut de l'Alpe d'Huez qui faisaient un sprint pour pas finir avant-dernier ou dernier de la course. Et on va avoir de l'enjeu sportif à tous les niveaux. Et franchement, moi, ça me fascine.
Ok, ça te régale. Bah, t'as été très bon, en tout cas, dans ton exposé, mon cher Kevin. On remercie Franck Cabas d'être avec nous.
J'aurais pas dit mieux, sur c'est parfait, RMC. Kevin.
Ça, je l'ai senti à bord de la navette presse. Franck, juste qui va gagner?
Ben justement, on sait pas. C'est ça qui est bien. Il y a 15 bateaux neufs. Il y en a au moins 5 qui sont soignés. Au-dessus du Papanier, pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de transats entre Vendée Globe. Il y a eu des routes du Rhum, Transat Jacques Vabre. Et deux transats cette année encore. Donc il y a les vainqueurs de ces transats qui évidemment se positionnent pour un vainqueur potentiel. Mais franchement, c'est très difficile.
Okay.
Voilà, il revient avec un bateau neuf, par exemple. Donc il fait partie aussi des favoris, mais il y en a plus d'une dizaine comme ça.
Ok, bon, bah, on suivra ça avec attention et tu seras avec nous tout au long de la course. Merci beaucoup, Franck, de participer aux Grandes Gueules du Sport.
Les noms qui ressortent. C'est oui. Quand même plutôt d'Alain, Richomme, Herman et Bestaven, hein, sur les quatre qui ressortent à peu près.
Exactement. 74 jours, c'est le record à battre. Un record d'Armel Lecléache.